tous. Donc la fois passée, après la première leçon qui était l'introduction, nous avions vu la parabole du semeur et son explication, et surtout ce qu'il y avait entre l'énoncé de l'histoire et l'explication, c'est-à-dire toute une réflexion sur le pourquoi des paraboles. Et nous avions mesuré l'importance à cet égard de la citation d'Isaïe sur laquelle Matthieu s'appuie et qu'il développe particulièrement à la différence des deux autres, Marc et Luc. Alors nous avions repéré dans cette citation l'importance du vocabulaire du cœur, parce que si le cœur n'est pas ouvert, eh bien les oreilles ne s'ouvrent pas pour bien entendre et les yeux pour bien regarder. On avait pu noter cela, donc ce texte d'Isaïe était sur votre page 10 dans votre dossier. On avait pu aussi noter l'importance accordée au vocable de la parole récurrent. Si vous reprenez votre page 8, la colonne de Matthieu, un instant. On avait vu que chez Matthieu et Marc, ce terme de la parole scande vraiment l'ensemble. Matthieu 13, 19, quiconque écoute la parole du royaume. Ça, on va y revenir un instant sur cette importance aussi du fait que c'est une parole du royaume. Tandis que Marc dit simplement, le semeur sème la parole. La semence c'est la parole de Dieu pour Luc. Mais Matthieu précise la parole du royaume. Et il s'agit, cette parole, de l'accueillir dans son cœur, là où le mauvais risque de la ravir, pour celui qui ne s'y ouvre pas, l'accueillir dans son cœur, et de comprendre. C'est un autre vocable important que l'on trouve là chez Matthieu, qu'il déplore particulièrement. Si vous prenez un instant votre texte à la page 11 cette fois-ci, je vous fais circuler un peu dans votre dossier, page 11. Verset 13. En raison de ceci, je leur parle en parabole, parce que regardant, ils ne regardent pas, entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Ainsi s'accomplit la parole d'Isaïe, Matthieu la cite, et nous comprenons que ce vocable décisif, comprendre, vient d'Isaïe lui-même. Au verset 15, que de leurs yeux et que de leurs oreilles ils n'entendent et que de leur cœur ils ne comprennent. Et puis au moment où Jésus va expliquer la parabole, il reprend encore ce verbe important, à tout qui entend la parole du royaume et ne la comprend pas, bien le méchant est ravi ce qui était semé dans son cœur. Par contre, à l'autre extrême de cette explication, au verset 23, qui fut semé sur la belle terre, celui-ci est celui qui entend la parole et la comprend. Et à la fin, Jésus demandera, avez-vous compris tout ceci? Il ne dit pas encore à ce moment-là. Si on relit les versets 16-17, or, heureux vos yeux parce qu'ils regardent, vos oreilles parce qu'elles entendent, car en vérité, je vous le dis, de nombreux prophètes et justes ont désiré voir ce que vous regardez et n'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu, et Jésus ne dit pas encore, heureux parce que vous comprenez. Encore du chemin à parcourir pour comprendre. Mais au moins, ils ont entendu, ils ont vu. Alors, cette notion de la compréhension est importante, puisque vous vous souvenez, je reviens un instant à la page 8, Marc, au début, nous fait entendre Jésus disant, Marc 4, 13, il leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole, alors toutes les les autres paraboles, comment les saurez-vous? En fait, il y a trois verbes qui ne sont pas toujours rendus dans la synopse avec la plus parfaite cohérence par rapport au grec, mais sachez qu'il y a quand même trois verbes différents qui interviennent chez Matthieu, chez Marc. Le verbe de la connaissance, gnosko, par exemple, comme on le lit en Matthieu 13, verset 11, la page 11, le premier verset de la page, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et puis après, on aura le vocabulaire du comprendo. Le verbe connaître, ça c'est un verbe important. Et puis le verbe comprendre, donc connaître c'est gnosko, gnonai, comme infinitif pour ceux qui font du grec. Le verbe de comprendre, syniemi, et qu'on trouve dans la citation d'Isaïe, et puis ressaisi plusieurs fois, comme le disait par Matthieu. Et enfin, le verbe du savoir, oïka, tel qu'on trouve par exemple en Marc 4, 13. Donc, un riche vocabulaire pour exprimer l'invitation à faire un effort de compréhension en profondeur pour connaître et mieux savoir ce qu'il en est. Et c'est précisément l'attitude du cœur qui permet de voir, d'entendre et finalement de comprendre en profondeur. Ceci pour rappeler un peu le cœur de ce qu'on avait vu la fois passée. Nous allons procéder maintenant, avancer dans la suite du chapitre 13, si vous le voulez. Alors prenez précisément la page 13 que je viens de vous donner. Vous avez en tête un petit tableau qui vous remanifeste clairement quelles sont les sept, vu qu'il y en avait sept, paraboles ou images développées qui se présentent dans ce chapitre 13 de Matthieu. Le semeur, livré, le grain de moutarde, le levain dans la pâte, le trésor caché, la perle et le filet. On avait vu qu'il n'y en a que deux qui sont communes aux trois évangélistes. Nous avons vu, en profondeur, la parabole du semeur, sans dénoncer la réflexion intermédiaire et son explication. Je vous invite maintenant à prendre le tableau que vous avez juste en dessous, qui est tiré d'une remise en forme que j'avais faite du plan proposé par le père Jean Radermakers dans son commentaire, et intitulé cette section « Mystère et croissance du royaume ». Il reviendra sur l'importance de ce mot qui intervient 12 fois dans le chapitre 13. « Mystère et croissance du royaume, les paraboles ». Alors vous voyez comment il structure l'ensemble du chapitre. L'introduction, c'est la mise en situation, Jésus s'assied et les foules sont là sur le rivage et il ouvre la bouche et leur parle en parabole. Donc, c'est l'introduction. Et puis, un ensemble qui va aller jusqu'au verset 35. On va voir qu'au verset 35 puis 36, il va y avoir un changement. Un changement de lieu, d'auditoire, de genre littéraire, etc. Et ce premier ensemble, qui va jusqu'au verset 35, le père Radermakers l'intitule « Écoute et compréhension de la parole, les foules et les disciples ». Tandis qu'après, on va avoir une explication où il n'y aura plus que les disciples comme auditoire. Mais là, on est en présence des foules et les disciples aussi entendre, à un point qu'ils demandent, mais à un moment donné, explique-nous la parabole. Avec, d'abord, entendre et comprendre la parole, c'est la parabole fondamentale, celle du semeur. Donc les paraboles sont numérotées, vous voyez, avec un chiffre entre parenthèses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le semeur, en trois temps, l'énoncé, le récit, si vous voulez, le pourquoi des paraboles, et puis son explication. Et nous avions ainsi parcouru la fois passée jusqu'au verset 23. C'est là que nous étions. étions arrêtés. Puis un second ensemble, avec le sous-titre « Laisser grandir le royaume ». Il y avait déjà l'idée de croissance, du bon grain, s'il est dans la bonne terre, mais cette idée d'une croissance poursuit à travers le bon grain et les ivrées qui grandissent aussi. Et c'est au moment où on grandit qu'on s'aperçoit de leur présence. Le grain de moutarde, qui a l'idée d'une croissance, à partir d'un petit grain insignifiant à un arbre. Et l'image du ferment dans la pâte implique aussi l'idée d'une croissance. D'où ce sous-titre, laisser grandir le roi. Et puis, les versets 34, 35, 36, sur lesquels je vais revenir. Mais je poursuis d'abord pour en venir au second volet de ce chapitre 13, intitulé « Le royaume révélé au monde, les disciples et tous les hommes ». Et cette amplitude de l'auditoire est signifiée par la parabole du filet rempli de poissons. Il y a d'abord l'explication des ivrées. Il y a à ce moment-là, la parabole, l'histoire a été racontée précédemment, mais maintenant on l'explique. En termes de les fils du royaume et les fils du méchant. Parce que ce sont eux qui ont sauvé l'ivre. Et puis, une section intitulée Vendre tout et tout assembler, ou l'or, enfin, l'image du trésor, la perle précieuse, puis l'histoire du filet rempli. Et le père Adormakers estime que l'explication du filet qui vient juste après sert un peu de conclusion à cet ensemble. Et on verra le fait que l'idée de tri, de jugement final, qui intervient dans l'explication du filet, reprend l'idée de tri et de jugement final qui intervient dans l'explication de l'ivrée au début. Donc l'ensemble est bien encadré par cette idée d'un tri, mais final, au dernier jour. Et puis la conclusion de tout le discours, les versets 51-52 que je vous ai mis. Sur la feuille, il me reste un petit peu de place. Je vous ai mis en position ici, mais la conclusion de tout le chapitre, on les lira. Alors, dans cet ensemble, vous voyez que apparaissent, comme formant un petit tout, les paraboles 2, 3, 4. À quel titre? Si vous en prenez le texte sur la page 14, vous voyez qu'elles sont introduites toutes les trois de la même manière. Vous avez votre page 14, vous avez donc les trois paraboles en question, le bon grain et l'ivraie, puis le grain de moutarde et le ferment dans la pâte, qui engagent toutes les trois une idée de croissance. Mais aussi sont introduites toutes les trois par des formules rigoureusement parallèles. Verset 24, une autre parabole, il leur proposa en disant « Le royaume des cieux a été assimilé à... » Verset 31, c'est la même chose, une autre parabole, il leur proposa en disant « Semblable est le royaume des cieux à... » Et enfin, verset 33, une autre parabole, il leur parla semblable à le royaume des cieux. Ah, donc la même formule d'introduction à chacune de ces trois paraboles. Tandis que les trois suivantes, 5, 6, 7, je tourne la page, je prends la page 15 déjà. Vous voyez qu'après l'explication des ivrées, on va voir les paraboles 5, 6, 7, le trésor, la perle, le filet, et là, la formule, si, est bien marquée, chaque fois la même, semblable, l'ordre des mots est un petit peu, c'est quand même très proche de ce qu'on vient de lire, semblable est le royaume des cieux à, de nouveau, semblable est le royaume des cieux à, de nouveau, semblable est le royaume des cieux à. Donc, vraiment, récurrent, cette formule de similitude et qui désigne le royaume et le royaume qualifié comme royaume des cieux. Je vais y revenir dans un instant, mais ça pour vous donner une première idée de ce qui a induit autre élément, le père Adorvinker, ça, faire valoir un peu cette série 2, 3, 4, et puis, un peu plus loin, la série 5, 6, 7. Je reviens un instant au verset 103, les versets 13, 34, 35, 36. Les versets 34-35, vous les avez au bas de la page 14 et au début de la page 15. De tout ceci, Jésus parlait en parabole aux foules. Et mis à part une parabole, il ne leur parlait de rien. Traduction littérale du grec, en vue que s'accomplit ce qui fut dit par le prophète disant « J'ouvrirai en parabole ma bouche, je proférerai des choses cachées depuis la fondation du monde. » En fait, c'est une citation d'un psaume plutôt que d'un prophète. Mais d'une manière de dire, c'est une parole prophétique dans son sens général. Et puis au verset 36, je vais revenir un instant sur ces versets qui sont importants. Au verset 36, alors, laissant les foules, il vint vers la maison, et ses disciples vinrent auprès de lui en disant, explique-nous la parabole des ivrées dans le champ. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quand même plusieurs changements. Un changement d'auditoire, laissant les foules et ses disciples. Maintenant, c'est réservé aux seuls disciples. Un changement de lieu. On était au bord de la mer, on arrive, il vint vers la maison. On viendra à la mer, mais par l'histoire du filet au bord de la mer, à l'intérieur de la mer. Mais pour le moment, on change de lieu, l'explication est en privé pour les disciples dans la maison. On change de genre littéraire, puisque on passe de l'énoncé d'une histoire à, au genre, l'explication de l'histoire. Et enfin, ici, s'amorce, au verset 36, toute la finale du chapitre qui est entièrement propre à Matthieu. À partir d'ici, tout ce qui suit jusqu'au dernier verset du chapitre, on ne le trouve que chez Matthieu. Donc on voit bien que c'est un verset charnière qui a pas mal de changements. Donc, un premier volet du chapitre et un deuxième volet. Je reviens un instant au verset 34-35. De tout ceci, Jésus parlait en parabole aux foules, mis à part parabole, mais on parlait de rien. Si, je lis, en Saint-Marc, au chapitre 4, son verset 34, il est assez net aussi, à cet égard, pour distinguer ce qui est dit aux foules uniquement en parabole et la manière dont Jésus s'exprime pour les disciples. En Marc, c'est lui, la conclusion de tout son discours, mais vous savez qu'il est beaucoup plus bref, hein, beaucoup moins de paraboles. Par de nombreuses paraboles, pareil, il leur parlait la parole, selon ce qu'ils pouvaient entendre. Or, à l'écart, en propre littéralement, à ses propres disciples, il expliquait tout. Donc ça, c'est la manière dont Marc, dans son chapitre 4, le verset 34, pose la différence entre l'auditoire des foules, et puis l'explication plus approfondie qui est réservée aux disciples. Alors, c'est important aussi parce qu'une citation est faite et une citation d'accomplissement, avec une formule solennelle qui vient souvent au début de l'Évangile. Or, au début de l'Évangile, il était dit « Ceci s'accomplit afin que ce soit accompli. » Ce qui fut dit par le prophète disant de point ouvrez les guillemets. C'est ce qu'on appelle l'introduction d'une citation d'accomplissement. Et cet accomplissement qui était déjà mis en œuvre au début de l'évangile, voici qu'il revient dans ce chapitre des paraboles pour dire que le fait même de s'exprimer en parabole répond à une annonce accomplie, une annonce qui avait été faite antérieurement, où il était dit, j'ouvrirai en parabole ma bouche, et je proférerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Ça, c'est important parce que la formule, vous voyez que les mots du monde sont mis entre doubles parenthèses, parce qu'on peut avoir une petite hésitation dans les manuscrits grecs, dans différentes versions, mais en tout cas, à l'intérieur de Matthieu, je crois qu'une des raisons de retenir cette version-là, c'est qu'elle fait écho aussi à une autre occurrence exactement la même, mais à la fin de vers la fin des discours de Jésus. Dans le dernier discours de Jésus, qui sera Matthieu le discours avec la mise en scène du jugement dernier, au chapitre 25, au verset 34, je lis. Alors le roi dira à ceux de sa droite, allons les bénis de mon Père, héritez du royaume apprêté pour vous depuis la fondation du monde. Donc, ce qui sera dit à ce moment-là, au dernier jour, du royaume apprêté pour les bénis du Père depuis la fondation du monde, est déjà dit ici, à partir de la phrase du psaume, je proférerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Ce qui était en germe dans le dessein initial du Père, vous voyez que là au chapitre 25, les bénis de mon Père. Et dans l'autre chapitre, à un moment donné, il va être question du royaume du Père aussi. Donc ce qui était en germe dans le projet initial du Père depuis la fondation du monde, et à travers la parole parabolique de Jésus, commence à s'exprimer, à se révéler et trouvera son accomplissement final au terme. Je proférerai des choses cachées. Ça veut dire, ça signale le genre révélateur aussi des paraboles. Il s'agit de faire venir à la lumière des choses qui étaient cachées. C'est ce que Jésus disait au début aussi en parlant à vous de connaître les mystères. Je vous ai dit, les mystères, ce n'est pas une réalité destinée à rester indéfiniment mystérieuse, mais c'est une réalité tellement profonde qu'elle n'apparaît pas à première vue et qu'il faut l'aide de Dieu, des explications paraboliques de Jésus pour progressivement faire venir à la lumière ce qui était caché. Mais rien de caché qui ne doit venir à la lumière, a déjà dit Jésus précédemment dans l'Évangile. Donc, je proférerai des choses cachées depuis la fondation du monde. Jésus dit ça au cœur de son discours en parabole. C'est le verset central, en quelque sorte, de ce chapitre. Ce chapitre qui est lui-même le discours central parmi les cinq. Vous vous souvenez, c'est le troisième. Donc, au centre du discours central de tout l'Évangile, il y a ces paroles importantes. C'est pour ça que j'ai mis un terme qui dit la force d'intention révélatrice, illuminatrice que Dieu, que Jésus porte en s'exprimant en parabole. Déjà, je dirais, cette notion devenue au jour des choses cachées, on a pu le lire de son annonce dans le chapitre 10 de saint Matthieu, au chapitre, au verset 26. Au moment, ça c'est dans le discours d'envoi en mission, Jésus laisse entendre à ses disciples qu'ils vont connaître des persécutions, mais il leur dit, « Ne les craignez donc pas, car rien n'est voilé qui ne sera révélé, rien n'est caché qui ne sera connu. » Une venue au jour à la lumière. C'est un verset important qui va dans ce sens-là. Et chez Marc, vous pourriez aller voir aussi au chapitre 4, son verset 22. Qui va dans ce sens-là, je le prends, je le lis. 4, 22, chez Marc. Il l'articule à partir de l'image de la lampe. Est-ce que la lampe est posée sous le boisseau ou sous le lit? Est-ce qu'elle n'est pas plutôt là pour être posée sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon ils doivent être manifestés. Rien n'arrive en cachette, sinon afin que cela devienne manifeste. Puis, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Jésus répète aussi dans le chapitre 13. Donc, ouvrir ses oreilles pour accueillir la révélation de ce qui était caché et qui, maintenant, va être révélé. C'est ce qu'on appelle une dynamique apocalyptique. Nous associons le mot apocalypse souvent à des catastrophes. Et c'est vrai, dans la présentation de la fin des temps, au moment où les choses seront pleinement révélées, il y a cet élément-là qui intervient dans les mises en scène que Jésus reprend de l'Ancien Testament. Mais le sens premier du mot apocalypse, c'est révélé. Apocalypto, c'est ce qui est caché, et apo, c'est l'enlever. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse, en anglais, c'est Revelation. C'est le livre de la révélation, qui reprend le sens du terme. Donc, on a ici l'insistance sur la dynamique apocalyptique au sens de révélatrice du discours de Jésus. Il y a dans ce petit ensemble, je vous invite à réavoir sous les yeux le tableau de la page 13. Donc, je me suis arrêté un peu. C'est versets 34, 35, 36. Il y a dans cet ensemble du chapitre 13 encore d'autres cohérences dans la manière d'enchaîner les choses. J'aurais pu signaler par exemple, ça commence par trois histoires de semailles, bien sûr, le semeur, le bon grain est livré, le grain de moutarde. Et le bon grain est livré, le grain de moutarde ont la même expression, un homme qui sème du bon grain dans son champ. Et le grain de moutarde, c'est un homme qui le sème dans son champ. Et puis entre le grain, il y a l'idée de croissance, qu'il voit comme puis entre le grain de moutarde et l'histoire du ferment, là on quitte le registre de la semaille pour arriver à cette histoire du ferment dans la pâte. Il y a cette manière commune de s'exprimer, un grain de moutarde qu'un homme prend et va mettre dans son champ. Et puis pour le levain, une femme prend du levain et va le mettre dans la pâte. Ce sont des petits indices littéraires du souci que, dans cette rédaction finale, Matthieu a d'enchaîner un peu les choses. Et le ferment, dans la pâte, la femme va le cacher. Il est enfoui dans la pâte, il est caché dans la pâte. Et puis là-dessus vient, rien n'est caché qui ne doit, à un moment donné, venir au jour, être révélé. Et puis après, on va avoir le trésor, quand on découvre qu'il était caché dans le champ. Donc, le passage du caché au révélé, si vous voulez, qui est au cœur de la parole psalmique, je révélerai des choses cachées depuis la fondation du monde, eh bien, ce passage est mis en œuvre dans la parabole qui précède et la parabole qui suit. Ce qui était caché, le levain dans la pâte fait monter tout, et puis le trésor qui était caché, voilà qu'on le découvre, qui lui engrange. Et entre le trésor et la perle, il y a un point commun, bien sûr, c'est que on trouve un trésor, on trouve une perle, et on va vendre tout ce qu'on a pour les acquérir. Donc vous voyez, entre les histoires, il y a ainsi des petits liens thématiques et lexicaux qui nous permettent de suivre aussi le fait. Alors, dans cet ensemble de paraboles, on a en fait la convocation, du point de vue visuel, de trois lieux qui sont familiers. Ces trois lieux sont d'abord les champs, puisque les histoires de semaille, que ce soit le bon grain livré, le grain de moutarde, c'est de la semence dans un champ, mais aussi le trésor, il est trouvé dans un champ. Donc le lieu qu'est le champ, puis le lieu qu'est la maison. La maison où Jésus est en train de donner l'explication aux disciples, mais aussi la maison dans laquelle la femme est en train de pétrir la pâte. Il y a des scènes d'extérieur, il y a des scènes d'intérieur, domestique. Et enfin, il y a un troisième lieu, le lieu de la mer. La mer au bord de laquelle se trouve la foule pour écouter le parabole, mais la mer à l'intérieur des histoires, puisque les perles, on ne parle pas de mer, mais je crois que les perles ne se trouvent pas directement dans un champ, mais plutôt au bord de la mer. les pêcheurs de perles, et l'histoire du filet avec les poissons. Donc, des lieux familiers, des réalités naturelles ou domestiques, les lieux pour côtoyer les champs, la maison, la mer. Après ce tour d'horizon, qui montre un peu plus comment l'ensemble du chapitre se structure, avec des progressions, avec ces versets 34-35 qui sont importants au milieu, nous allons prendre, comme nous l'avons fait pour le semeur, une parabole un peu plus longue, et son explication, qui est la parabole du bon grain de l'ivraie. Je vous invite à voir le texte sous les yeux, vous l'avez aux pages 14 et 15. Je profite du premier verset, le verset 24, pour revenir d'abord sur cette insistance sur le royaume des cieux. Bon, car une autre parabole, il leur proposa en disant « Le royaume des cieux a été assimilé à... » Et je vous disais, dans ce chapitre 13, on a pas moins de 12 fois l'expression « le royaume », insistant sur le royaume. C'est longtemps. Alors, je parcours simplement les versets pour que vous voyez où ils interviennent. D'abord, verset 11. Jésus leur dit, au moment où les disciples viennent de lui demander en raison de quoi leur parles-tu en parabole, il répond en leur disant, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. C'est la première occurrence. Puis la deuxième, elle vient, deuxième occurrence du royaume, elle intervient au moment de l'explication de la parabole du semeur, au verset 19. Vous donc entendez la parabole de celui qui sème, à tout qui entend la parole du royaume. Et ça, c'est propre à Matthieu. Marc ne dit pas comme ça, et lui dit la parole de Dieu. Mais c'est la parole du royaume, la parole dans la parabole du semeur. Puis au verset 24. Une autre parabole, il leur proposa, ce sont d'autres versets, le royaume de Dieu a été assimilé à, etc. Puis au verset 31, pour introduire la parabole du grain de moutarde, qui est dans le champ. Puis encore au verset 33, pour introduire la parabole du levain, du ferment dans la pâte. Mais ça intervient encore au verset 38. On va le voir dans l'explication des ivrées que nous allons lire. La belle semence, ce sont les fils du royaume. Et puis encore au verset 41, le fils de l'homme enverra ses anges et ils proclameront de son royaume. Et au verset 43, ça sera le royaume du Père. Alors les justes resplendiront dans le royaume de leur Père. Enfin, est-ce que c'est le royaume du Fils, le royaume du Père? On expliquera un petit peu. Puis encore au verset 44, alors ça, c'est dans le final du trésor, la perle, le filet, avec chaque fois la même formule, en 44, 45 et 47, semblable est le royaume, semblable est le royaume, semblable est le royaume. Mais il y a quand même encore une dernière occurrence. Au verset 52, il leur dit, ça sera la conclusion. Vous avez le texte mis latéralement. La conclusion, avez-vous compris tout ceci? Ils lui disent oui. Or, il leur dit, en raison de ceci, tout scribe fait disciple du royaume des cieux et semblable à un homme maître de maison qui jette de son trésor du neuf et du vieux. Donc, le scribe qui est devenu disciple du royaume des cieux. À travers les paraboles dites du royaume et dans le vocabulaire de Matthieu, spécialement du royaume des cieux, eh bien, c'est l'introduction du disciple à la réalité même de ce royaume. Donc ceci, c'était pour faire voir l'importance tout à fait notable chez Matthieu de l'insistance sur le royaume. 12 fois, qui est quand même un chiffre de complétude dans ce chapitre 13. Nous lisons la parabole, c'est vrai. parabole et le proposa en disant « Le royaume des cieux a été assimilé à un homme qui a semé de la belle semence dans son champ. Pendant que les hommes dormaient, vint son ennemi et il se vint sur le champ, désivré au milieu du blé et s'éloigna. Or, quand l'herbe germa et fit du fruit, alors apparurent aussi les ivrées. Et venant auprès, les serviteurs du maître de maison lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé de la belle semence dans ton champ? D'où donc y a-t-il de ivrées? Il leur déclara, un homme ennemi a fait ceci. Or, les serviteurs lui disent, veux-tu donc que nous éloignions, nous les recueillions? Or, il déclare, non, de peur que recueillant les ivrées, vous ne déraciniez ensemble avec elles le blé. Laissez-les tous deux grandir ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, recueillez d'abord les ivrées et liez-les aux bottes pour les consumer. Or, le blé, assemblez-le vers mon grenier. On a, comme de nouveau pour le semeur, l'énoncé d'une histoire sans encore d'explication du caractère parabolique de l'histoire. Mais c'est une histoire un petit peu surprenante quand même. D'habitude, l'ivrée, elle pousse toute seule, il n'y a pas besoin de la semer. Vous voyez qu'il y a un contraste entre un homme ayant semé de la belle semence, et puis l'autre, dans la réponse du maître, un homme ennemi a fait cela. Hein? Au début, c'était pendant que les hommes dormaient, verset 25, vint son ennemi, mais il est qualifié de un homme ennemi. Donc, il y a un homme qui sème la belle semence, et un homme ennemi, deux hommes antagonistes. Comment Jésus va-t-il les expliquer? S'intercale le grain de moutarde, le ferment dans la pâte. Ces versets importants 34, 35, 36, les paraboles pour les foules, qui, entre l'histoire et l'explication qui va venir maintenant, convoque l'écriture, comme entre la parabole du semeur et son explication, Isaïe a été convoqué et largement exploité. Ici, c'est une parole psalmique qui, entre l'histoire et maintenant son explication, est exploitée et importante. L'explication. D'abord, le verset de transition 36, donc sur la page 15, alors, laissant les foules, il vint vers la maison, ses disciples viennent auprès de lui en disant, explique-nous la parabole des ivrées du champ. Répondant, il dit, et d'abord procéder dans une explication de type allégorique, c'est-à-dire qu'il va prendre, comme on a dit, trait par trait pour lui affecter une explication. Qui sème la belle semence est le fils de l'homme. Le champ et le monde. La belle semence, ceux-ci sont les fils du royaume. Les ivrées sont les fils du méchant. L'ennemi qui les sème est le diable. Or, la moisson est une consommation de siècles. Or, les moissonneurs sont des anges. On identifie d'abord chaque élément en disant de qui il s'agit. Les fils de l'homme, les fils du royaume, les fils du méchant, nommés aussi le diable. Et les anges qui interviennent à la moisson. Et puis on développe le scénario de ce qui se passera à la moisson. Tout comme donc sont recueillis les ivrées et brûlés au feu, ainsi en sera-t-il dans la consommation du siècle. Ça vient d'exprimer la fin du temps. Le fils de l'homme enverra ses anges et ils recueilleront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui font l'iniquité et les jetteront vers la fournaise du feu. Là sera le pleur et le grincement de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Quelques remarques sur cette finale. D'abord, vous voyez que c'est le même personnage qui sème maintenant la belle semence, le fils de l'homme qui sème la belle semence, et le fils de l'homme, ça c'est la manière qu'a Jésus, et lui seul, de se désigner en troisième personne. Or, l'expression « le fils de l'homme » a un arrière-fond. fond, plusieurs arrière-fonds bibliques, mais notamment un arrière-fond biblique au livre de Daniel, qui joue aussi en arrière-fond la fournaise du feu, de Jésus qui resplendissent comme le soleil. Vous voyez que le père Jean-Claude Maquès a mis entre parenthèses des références au livre de Daniel. Et dans le livre de Daniel, il y a « Je vis comme un fils d'homme venant sur les nuées, et lui fut donné pouvoir, royauté, etc. » Donc, dans ce passage de Daniel, l'association d'un fils d'homme à une royauté. Alors Jésus parle de lui, il dit pas simplement un fils d'homme, mais il dit deux fois, l'article définit le fils de l'homme. Et c'est l'expression qui, dans sa bouche, souvent le caractérise. Dans sa venue finale en gloire, mais aussi dans ses souffrances. Le fils de l'homme va souffrir, etc. Et donc c'est le même qui fait comprendre à ses disciples que lui, qui est en train de semer la parole en tant que fils de l'homme, c'est lui-même qui opérera au terme le tri que signifie déjà l'histoire, au moment où les livrets sont recueillis. Ça, c'est un premier tri. Le fils de l'homme, verset 41, enverra ses anges, et ils recueilleront de son royaume tous les scandales, ceux qui font l'iniquité, les jeteront vers la fournaise du feu. Là sera le pleur et le grincement de dents. Une formule, vous voyez, il y a des renvois entre parenthèses à d'autres passages de Matthieu, une formule que Matthieu utilise plusieurs fois. Mais alors on passe au royaume du Fils, ils recueilleront de son royaume au royaume de leur Père, où les justes resplendiront. Comme s'il y avait une passation entre le royaume du Fils et puis, au terme, un resplendissement final, comme le soleil, dans le royaume de leur Père. Ça exprime un peu une idée que saint Paul, je vais vous lire quelques versets de la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, exprime que nous célébrons le Christ, roi de l'univers, dans notre liturgie. Or, sa royauté, le Christ, l'exerce dans le temps présent de l'histoire, toute l'histoire. Il règne présentement en continuant à soutenir ses disciples qui sont sur terre et en étendant le règne de la justice à l'encontre du péché dans le combat qu'il mène. Mais au moment où il aura accompli pleinement sa mission par rapport à notre histoire humaine, au moment où cette histoire humaine se clôturera, les justes resplendiront dans le royaume de leur Père, comme dit saint Paul. À ce moment-là, la royauté qu'il a exercée pendant tout le temps de l'histoire ecclésiale et du monde, il la remettra à Dieu son Père. Le Christ nous apporte le royaume des cieux, mais comme s'il le recevait en délégation, en partage de son Père, et une fois qu'il aura accompli notre intégration dans le royaume, il pourra le remettre à Dieu le Père. Je le dis en m'appuyant un peu sur Paul, qui comprend un peu les choses. Parce qu'on pourrait s'étonner à première vue, quoi, c'est le royaume du Fils, c'est le royaume du Père. Vous voyez, ils recueilleront de son royaume les scandales, ceux qui font l'iniquité. Ça, c'est le temps du combat spirituel présent dans l'histoire du monde et de l'Église. Et à ce moment-là, pour les justes, ça sera terme, la vie en la pleine présence du Père. Je prends ces versets, c'est la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15. Vers le milieu du chapitre, enfin, la première partie du chapitre, où les Corinthiens s'interrogent, est-ce que nous ressusciterons ? La seconde partie, et Paul répond sur le fait de la résurrection, oui. Et dans une seconde partie, il expliquera sous quelle forme, une forme différente de notre corps terrestre, une forme glorieuse. Mais pour le moment, il nous développe un peu le scénario de la fin des temps. D'abord, prémices pour la résurrection des morts, Christ, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de sa venue, le retour du Christ en gloire. Ensuite viendra la fin, quand il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne, le Christ, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, jusqu'au terme, jusqu'à la victoire finale, dans le combat de l'histoire, qu'il exerce sa royauté de manière jusqu'à la victoire finale. Il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Et ça, dans le contexte du chapitre, une allusion, la destruction définitive de la mort, c'est la résurrection finale. Ça, c'est la victoire finale. Et, nous a-t-il dit, à ce moment-là, une fois cette victoire pleinement accomplie, il pourra remettre le royaume, cette royauté qu'il a exercée, eh bien, le remettre pleinement à son Père. Donc ce passage, 1 Corinthiens 15, pour le verset 24, est porte d'entrée pour comprendre un peu ce qui se joue ici. Et finalement, l'horizon final de l'espérance du Christ en nous parlant du royaume. Le royaume des cieux, c'est que finalement, nous vivions comme le juste, comme le soleil, dans la présence de Dieu notre Père. C'est ça, l'ange. Ça, c'est dans l'explication de la parabole insistant sur cette finale. Mais alors, quand on prend le filet, on a quelque chose un peu moins développé, mais qui répond. Je vous disais, il y a comme un écho entre l'explication des ivrées et l'explication du filet. Vous prenez les versets 49-50 au bas de la page, et vous lisez, c'est assez parallèle avec ce qu'on vient de lire, « Ainsi en sera-t-il dans la consommation du siècle, les anges qui apparaissent sortiront et sélectionneront les méchants du milieu des justes et les jetteront vers la fournaise de feu. » Là sera le pleur et le grincement de dents. Donc, là, l'explication insiste plus sur le caractère de jugement âpre. Tandis que l'explication de la parabole des ivraies se terminait sur cette note positive, importante, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Je répète, le vocabulaire jeté dans la fournaise de feu, etc., ça induit évidemment dans l'imaginaire chrétien de la fin des temps des images fortes, mais c'est pétri de cet arrière-fond aussi de Daniel, où vous vous souvenez que jeté dans la fournaise, Daniel, survit avec ses compagnons, grâce à sa foi en Dieu. Donc, lorsque Jésus, dans l'explication d'une parabole, nous transporte à la fin des temps, la consommation des siècles, c'est pour d'autant mieux nous stimuler dans le présent, où il dit cette parabole, où nous l'entendons, à faire le bon choix, avoir la bonne attitude. Entendre, comme il le refera au chapitre 25, que nous serons en sa présence et qu'il nous dira ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, ce que vous... Ne pas l'entendre seulement à ce moment-là, mais que déjà il anticipe ce qu'il nous dira à ce moment-là, c'est ça la grâce de révélation qu'il nous fait maintenant. Pour que justement nous ne soyons pas pris de court, que nous ne disions pas, on ne savait pas, on n'avait jamais entendu, non. En écoutant les paraboles, il nous fait, à la lumière de la fin, mesurer l'enjeu dès notre aujourd'hui. C'est ça le rapport entre la mise en scène de ce qui se passe à l'escaton et le temps présent où Jésus est en train de parler et où déjà s'opère un peu un discernement. Vous pouvez comprendre, je reprends alors pour terminer, si vous voulez, quelques points saillants de l'enseignement spirituel des paraboles. Vous voyez qu'on est resté un peu plus longtemps sur le semeur, sur l'explication, les passages intermédiaires qui sont importants, l'organisation d'ensemble. Je ressaisis maintenant en cinq points, si vous voulez, ce qui me paraît important de cette dynamique du chapitre 13. D'abord, un premier point, c'est que le genre parabolique sert la révélation du mystère, des mystères du royaume et des choses cachées. Et spécialement pour celui qui a commencé à s'y ouvrir. Donc il y a un aspect de révélation. Qu'on pourrait détailler la révélation de la personne de Jésus, de la profondeur de sa parole, la révélation des attitudes d'écoute requises, d'ouverture du cœur à partir d'Isaïe. La révélation du temps du salut qui est advenu, qui advient dès maintenant, et qui déjà dans le présent des auditeurs, à travers la parole de Jésus, se révèle. Et bien sûr, la révélation finale, la révélation eschatologique, comme on dit, eschaton veut dire le dernier, de la portée ultime de nos choix. Donc, dimension de révélation qui sous-tend le choix du genre parabolique et des explications assorties. Un deuxième trait, je dirais, c'est que les paraboles disent et appellent à une œuvre de discernement. Vous sentez bien qu'il y a les fils du mauvais, il y a les fils du royaume, il y a les iniques ou méchants, en regard des justes. Un discernement que l'on doit d'abord, je dirais, opérer pour soi-même, dès maintenant, le bon grain et le vrai, ben, nous fait nous interroger sur cette ambiguïté qu'il y a en chacun de nous, quand même. Et Jésus dit, ayez de la patience par rapport à cette cohabitation en chacun de vous, le bon grain et le vrai, mais on voit bien qu'il faut essayer de promouvoir tout ce qui fait grandir le bon grain. Sachant qu'il y aura un jugement final sur nos choix. Et de même, dans le tri du filet à l'escaton, il y a le bon poisson et puis il y a ce qui est rejeté. Donc il faut une vigilance et une patience en même temps. C'est ça que nous disent aussi ces paraboles. Une vigilance, une promptitude à essayer de choisir d'être une bonne terre, plutôt des rocailles ou un bord de chemin, pour bien porter du fruit, le mieux possible dès maintenant, et par rapport à cette part d'ivraie et en nous-mêmes et dans le monde, savoir que Dieu patiente, mais en même temps qu'il nous révèle, je dirais, que les choses ne sont pas indifférentes pour autant qu'il y a des choix à poser, il faut discerner. Ce qui veut dire que, c'est un troisième trait, ce qui est révélé appelle un discernement, et quand on voit un peu mieux les choses, qu'on les comprend, il s'agit de s'engager. Les paraboles sont là pour nous faire changer aussi. Donc il y a une dimension, troisièmement, d'engagement. Il faut pouvoir faire le choix d'être une bonne terre. Il faut pouvoir se décider, lorsqu'on découvre la perle, le trésor, à vendre tout pour les acquérir. Il y a un engagement qui suppose des renoncements. Et cela, pour suivre Jésus. Alors c'est un engagement, un choix, et qui ne se fait pas, Jésus le sait, facilement. Il y a une dimension de combat des esprits. Il y avait cette note dans le passage de Paul, que la royauté du Christ n'est pas une royauté inerte, c'est une royauté qui s'exerce en combattant contre le mal. Et on voit bien que dans l'explication de la parabole des ivraies, il y a quand même les fils du royaume et puis il y a les fils du mauvais. Le Satan, le diable, il est nommé, il est présent. Et donc il y a un combat spirituel à mener pour pouvoir sans cesse reprendre cet engagement que requiert ce choix concret, que requiert la perspective énoncée par les paraboles. Il y a d'un côté l'esprit du royaume et de l'autre côté, si on peut dire, l'esprit du monde, si on parle en termes de combat des esprits, qui est représenté par les fils du méchant qui s'aiment livrer. Mais, et c'est le dernier trait, je soulignerai, une perspective résolument positive, c'est l'insistance sur la croissance du royaume. Il y a des combats, il y a des difficultés, il y a des ambiguïtés. Mais la semence, le grain de tard, le ferment, nous parle d'une croissance, et d'une croissance inespérée, en tout cas presque disproportionnée entre le petit grain de moutarde et l'arbre merveilleux qui s'ensuit, entre le petit rien qui a un tout petit peu de vin, il fait lever toute la pâte. Donc il y a une puissance de croissance, de fermentation du royaume. Donc c'est la dimension aussi d'encouragement qu'on trouve présente dans ces paraboles. Parfois, nous pourrions nous laisser nous décourager par nos propres faiblesses, nos ambiguïtés, les contradictions, les sollicitations du monde. Hein. Souvenez-vous de la parabole du semeur. Le bon grain tombe quand même parfois, c'est parfois notre cœur qui est de pierre au bord du chemin. C'est sans cesse un combat à reprendre. Mais la dynamique présente dans ce chapitre, cette dynamique de croissance, promet l'éclosion du royaume des cieux, qui est à l'œuvre maintenant, dès maintenant, en suivant la parole de Jésus. Et c'est pourquoi je termine alors par le dernier verset du chapitre. Avez-vous compris tout ceci ? 51. Ils me disent oui. Il leur dit, et Jésus ne limite pas leur enthousiasme, il a compris tout ceci, oui. Sans doute petites mesures qui n'ont pas encore tout compris, comme chacun de nous, mais en attendant, il les encourage aussi. Ainsi, en raison de ceci, tout scribe fait disciple du royaume des cieux est semblable à un homme, maître de maison. Il est en train de parler dans la maison, le disciple, hein, lequel tire de son trésor du neuf et du vieux. Alors le scribe, c'est une figure de lettré tout à fait compétent dans la connaissance des Écritures de l'Ancien Testament, bien sûr. Et puis, ce scribe, il est fait disciple, un terme qui est spécialement réservé à ceux que Jésus s'attire à lui. Donc on est en train de passer, on a vu que des citations de l'Ancien Testament étaient en arrière-fond, mais on est en train de s'appuyer sur cet ancien pour accueillir la nouveauté. Il tire de son trésor du neuf et du vieux. Le vieux, le fond d'Ancien Testament, les paroles d'Isaïe convoquées, je dirais, trouve comme une lumière nouvelle dans l'interprétation que Jésus en donne. La manière dont il s'en saisit. L'ancien, le vieux, nous était dit ici, n'est pas périmé. À d'autres moments, Jésus insistera sur le fait que pour accueillir la nouveauté, il faut pouvoir laisser tomber le mauvais ancien. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. On ne remplace pas un vieux vêtement. Mais ici, il est en train, à la fin du chapitre, de bien articuler dans leur continuité ce qu'il y a de meilleur de l'ancien. Tout le fond biblique de l'Ancien Testament, avec la nouveauté qu'il apporte. Scribe fait disciple du royaume des cieux, semblable à un homme maître de maison qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Et voilà qu'il utilise le terme de trésor. Il a déjà mis en scène la découverte du trésor. Donc il y a déjà un fond de trésor dans l'Ancien Testament, mais avec le Christ arrive la nouveauté, la surprise d'un trésor ultime qui mérite qu'on vende tout pour l'acquérir. Voilà pour ce survol un peu de ce chapitre 13 de Matthieu, donc qui est quand même, vous le sentez, assez important, complet, riche et assez décisif pour entrer dans cette dynamique des paraboles.